One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Amel Zaïd et toutes les deux semaines, je te propose un nouvel épisode de Spiritualista, ton podcast initiatique. Tous mes partages sur toutes les plateformes n'ont qu'un seul objectif, t'accompagner dans ton éveil spirituel et dans ton expansion de conscience. Tu peux suivre mes partages sur Instagram, Spiritualista Podcast, et sur TikTok, Amel Spiritualista, et tu trouveras toutes les informations sur mon actualité sur mon site spiritualista.fr. Mon invité pour ce 51e épisode de Spiritualista s'appelle Jean-Pascal Zadi. Il est rappeur, auteur, présentateur à la télévision et à la radio, mais il a surtout percé l'été 2020 avec son film choral Tout simplement noir.
Les blancs sont interdits à ta marche.
Ils sont pas interdits, ils sont pas invités.
Mais c'est pas conseillé.
Ils sont pas conseillés.
Ouais. Non, ils vont pas se faire frapper.
Nous, mais il y aura pas une bonne ambiance.
Voilà. Je vais faire une marche, moi, de mon côté avec les Indiens.
Soirée entre
nous. Va vous niquer votre marche de renom.
JP est un ami et depuis des années, j'adore parler avec lui du processus créatif et surtout, j'adore partager avec lui toutes les expériences spirituelles que je peux vivre, et lui, il a un max d'expériences mystiques à partager avec nous. L'accueillir dans la saison 3 de Spiritualista, bah, c'était clairement une évidence. Alors je te souhaite une fabuleuse écoute. Go ! Alors aujourd'hui dans Spiritualista, je suis avec un invité assez particulier parce que c'est un ami, un ancien collègue de travail. On a bossé genre plus de 6 piges ensemble, on se connaît bien.
Abuse pas 6 ans, wesh.
Bah en fait on a bossé dans la même émission pendant 3 ans, mais oui, on se croisait à la radio. Ans.
Oui c'est vrai, c'est
on
vrai.
Était
c'est
collègues,
vrai. Ouais, c'est j'étais... sympa, c'est obligé d'être dans la vérité et tout ça, donc à partir du moment où tu vas mentir, je vais te stopper.
Vas-y, on joue à ça. Que la vérité réclame.
Que la vérité. Vas-y, allez, bisous go. Ma gueule.
Spiritualista. Alors JP, merci d'avoir accepté cette invitation, tu vois, t'aurais pu la décliner, parce
non.
que monsieur a peut-être pris la grosse tête ces derniers
non,
temps.
Non, c'est impossible, si tu m'invites quoi que ce soit dans un truc même foireux, merdique, même pas ça, tu vois, je serais venu quand même, parce que t'es quelqu'un que j'aime bien et j'ai envie de te soutenir, j'ai envie de te booster, tu vois, merci. Tant que ça me fout pas dans la merde, je veux dire.
Alors JP, déjà, on va commencer, tu vois, je pense que je vais apprendre plein de trucs au travers de cette interview, parce que les questions que je vais te poser aujourd'hui, bah, je ne les ai jamais vraiment posées.
Ok.
On va commencer sur, voilà, t'as cartonné ces dernières années au cinéma,
ouais.
T'as été césarisé,
ouais.
On t'a vu à Cannes,
ouais.
Tes amis sont dans, c'est plus la Jet 7, tu vois, t'es dans la Jet 8.
Oui, je suis dans la Jet 9, oui, c'est vrai, oui.
Est-ce que d'après toi, cet accès à la célébrité, à la notoriété,
oui.
ça a été quelque part un parcours initiatique dans ton éveil de conscience et dans ta connexion aux sphères spirituelles.
Oui, on peut carrément dire que le fait d'avoir pu accéder à certaines choses, ça m'a permis de comprendre certaines choses sur moi-même. C'est-à-dire que le fait d'être un petit peu plus désiré, un petit peu plus, on me veut plus dans plein de choses et tout, eh ben, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même et sur mes faiblesses aussi. Et en fait, oui, il y a des domaines dans lesquels je me croyais très fort. Et finalement, quand c'est arrivé, je me suis dit, ah ouais, putain, je suis pas si fort que ça. J'ai cédé facilement à ça, ça, ça.
Tu penses à quoi ?
Bah, plein de choses. Je sais pas. Par exemple, l'argent. Tu vois, normalement, gagner beaucoup, beaucoup d'argent, je m'en fous. En vrai, de vrai, je m'en fous. Mais il y a des petites choses que, en vrai, j'aurais pas dû faire. Il y a des trucs que j'aurais pas dû faire en fait.
Tu parles de projet.
Voilà, je parle de projet, ouais. Je suis assez fier de tout ce que j'ai fait, mais il y a des trucs que j'aurais pu m'en passer, quoi.
Ok, et c'est quoi qui t'a poussé à le faire quand même ?
Bah, je sais pas, j'ai un truc en moi un peu qui a envie de découvrir des trucs, qui a envie de me tester, j'ai envie de me. Tu vois ? En fait, le fait d'être un petit peu connu et d'avoir un petit peu de notoriété, ça m'a fait découvrir des choses sur moi. Je sais pas
bah,
comment t'expliquer.
Bien sûr.
Ouais, tu vois, il y a des choses sur lesquelles je me disais, ah, vas-y, jamais de la vie. Et puis le truc est arrivé, j'ai dit, ah, c'est pas mal, hein.
Est-ce
oh,
que
c'est
ça...
cool ça quand même, hein.
Est-ce que ça ressemblait ce que t'as vécu à ce que t'avais pu imaginer ? Déjà, est-ce que toi, t'avais des envies de succès, de notoriété
non.
et de gloire ?
Non, pas du tout. Moi, j'avais juste envie de vivre de mon métier et de pouvoir faire vivre ma famille et de pas que ma famille soit en galère. À la base, je cherchais juste un job. Juste un job rémunéré. Moi, en fait, le truc, c'est que j'ai jamais espéré au fond de moi être une star ou avoir un César ou quoi. Moi, tout ce que je voulais, c'était m'occuper de ma famille. Je voulais pas que ma famille soit en galère. Moi, je suis issu d'une famille pauvre, vraiment pauvre et tout. Et donc, j'avais pas envie que ma famille vive dans la galère. Donc, je me suis lancé, hein, entre guillemets, dans l'acting, réalisation, tout ça, pour avoir un métier, pas pour être une star. Donc, quand c'est arrivé, ça m'a pas spécialement surpris ou chamboulé parce qu'en fait, je m'attendais pas à ça.
Est-ce que c'est pas ça, justement, une des clés du succès? D'y aller un peu, en dilettante, plus poussée par une passion,
oui,
par un truc
ça.
Qui te fait kiffer.
Non, je ne sais pas si c'est la clé du succès, parce qu'il y a chacun à sa formule, chacun fait
à
comme il
veut. À son algorithme.
Voilà, à son algorithme. Mais je dirais que une de mes chances, c'était peut-être que j'en avais rien à foutre, en fait. Et que du coup, comme je suis arrivé dans mon art avec mon film, tout simplement noir, parce que bon, il n'y a que ça que j'ai fait pour l'instant. Quand je suis arrivé dans mon film, je suis arrivé simplement moi-même. Et ouais. J'avais pas d'aspérité à tout niquer, à avoir, être numéro 1 au box-office, avoir un César. J'avais pas du tout ça en tête. Moi, ce que je voulais, c'était juste dire ce que j'avais à dire et faire mon métier. Point barre.
C'est vrai que c'est drôle parce que moi, du coup, je t'ai vu dans ton processus d'écriture, processus
ouais,
créatif,
t'étais là, oui,
dans
t'étais
tes
là.
Doutes. Ouais. Et autour de toi, on était hyper nombreux à dire « ça va cartonner, JP ».
Ah bon ?
Ouais, tu vas devenir une superstar, genre vraiment. Tu te rappelles pas de ça ?
Oui, si, je me rappelle, ouais, vous me souteniez quand même.
Et toi, t'étais
même.
En mode genre « mais non, mais arrêtez
ouais. ».
Parce
oui.
que, est-ce que quelque part, au fond de toi, il y avait quand même une appréhension d'un échec ?
Non, j'ai pas peur de l'échec, parce que j'en ai eu beaucoup. Et je trouve que les échecs, justement, ça nourrit quand même pas mal et tout. On apprend, on s'améliore. D'ailleurs, tout simplement, noir, c'est le résultat de beaucoup d'échecs. Parce qu'avant, j'ai fait beaucoup de trucs qui n'avaient pas marché. Et donc, l'échec, ça me fait pas peur. Vraiment, vraiment, c'est pas un truc. L'échec et genre le jugement des autres, c'est vraiment des choses qui sont même pas dans mon, tu vois, dans mon sillon, dans mon champ de vision, quoi. Non, j'avais pas peur de l'échec. Peut-être l'échec de me décevoir moi, peut-être. Mais pas l'échec du public, mais peut-être l'échec de pas avoir été assez intègre, de, tu vois ce que je veux dire ? Peur de ça, oui, mais pas peur de l'échec du public. Je m'en bats les steaks de ça.
C'est cool que tu parles d'intégrité, parce que c'est vraiment une de tes valeurs cardinales, tu vois. C'est quelque chose vraiment qui te porte.
Ouais.
Comment tu définirais, toi, l'intégrité quand on est un artiste ?
Je dirais que l'intégrité, c'est d'abord être guidé par une pulsion intérieure, par un moteur intérieur, et ne pas trahir ce moteur intérieur-là. Je donne l'exemple, par exemple, pour moi, c'était important que dans mon film, je ne me trahisse pas et que je dise profondément ce que j'avais à dire. À plusieurs moments, dans mon film, tout simplement noir, et la production Gaumont m'a demandé de retirer le contrôle de police à la fin.
Oui, je me souviens.
Et donc, le contrôle de police à la fin, pour moi, je ne pouvais pas l'enlever parce que ça faisait partie des choses que j'avais envie de dire, en fait. Que oui, on est noir, oui, on est tous différents, oui, on n'est pas pareil, mais on a quand même des choses qui nous rassemblent. Il y a des problématiques qui nous rassemblent tous. Et donc, si j'enlevais le contrôle de la fin, pour moi, ça faisait genre une comédie. Ouais, on est là, on rigole et il se passe rien de ouf, tu vois.
Mais surtout qu'en plus, il y avait un aspect hyper prophétique à cette scène-là, parce que toi, quand tu l'écris, quand tu la tournes,
oui.
Il n'y a pas encore eu l'affaire George Floyd.
Non, il n'y a pas eu ça, non, non.
Et
non.
Donc, du coup, tu étais quelque part connecté, tu vois, tes antennes créatives, ton intuition, étaient quand même connectées déjà à une information qui allait devenir mondiale,
oui.
qui allait vraiment créer un soulèvement. Toi, au moment où tu écris, où tu tournes, où tu défends cette scène face voilà, aux gens de Gaumont, toi, tu sais au fond de toi qu'il y a une vibration de quelque chose qui va se révéler.
Ouais. Mais j'ai l'impression, tu vois. Mais j'ai l'impression aussi que dans Tout simplement Noir, dans mon film, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'inconscient. C'est-à-dire que je maîtrisais pas tout. J'étais juste...
Le canal.
Ouais, j'étais juste un canal de quelque chose. Je savais que cette scène de contrôle de police, il fallait absolument la garder. Je savais que... Il fallait pas trahir ce que j'avais vraiment envie de dire, tu vois. Tout ça, je le savais. Mais c'est pas quelque chose qui est forcément maîtrisé. C'est une pulsion que t'as à l'intérieur de toi et que t'acceptes d'être dépassé par le truc et tu dis, allez, vas-y. Comme j'ai envie de le faire, allez, je le fais comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai l'impression que, ouais, dans mon film, Tout simplement Noir, et dans l'art en général, il y a une part d'inconscient qu'il faut laisser. Il faut laisser cette part d'inconscient. En fait, on peut pas tout maîtriser, en fait, tu vois.
Est-ce que, quelque part, de par, tu vois, le prisme de ta créativité, de tout ce que tu écris, que tu crées, que tu filmes, est-ce que tu te sens en mission, quelque part?
Ouais, ça, c'est une question vraiment qui m'énerve. non, mais elle m'énerve parce qu'elle est cruciale, en fait. En fait, moi, j'ai pas l'impression d'être en mission, tu vois. Moi, j'ai juste l'impression d'avoir de la chance, d'avoir été quelque part un peu béni, tout ça. Et qu'il faut l'accepter. Quand on te donne une opportunité, on te donne une chance, et ben accepte le truc et va au bout, tu vois. Mais la mission, j'ai pas l'impression d'être en mission, mais je sais que ma condition de pauvre noir fait que, et ben malgré moi, j'ai quand même un poids sur les épaules. Et puis je le vois quand je marche dans la rue, et les gens, ils sont quand même assez fiers et tout, ils sont contents du discours que j'ai fait, ils sont contents de ce que j'apporte. Et malgré moi, j'ai l'impression qu'il y a une mission qui pèse sur mes épaules, mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai juste envie de rigoler, de m'éclater, faire mes trucs et tout, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est la pression sociale, c'est la France, c'est la situation du pays et ma condition aussi d'être humain qui fait que malgré moi, j'ai une mission. Mais moi, j'ai pas du tout l'impression d'être dans ça. Mais les gens me le font ressentir. Et comme on me le fait ressentir, ben, du coup, je fais un petit peu attention, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas aussi libre que ça, quoi.
C'est hyper intéressant parce que c'est un peu comme si ça venait avec le statut de personnalité publique.
Oui.
Un peu comme les super-héros, tu vois, de grands pouvoirs.
Oui.
Le grand pouvoir d'influence, du coup, c'est de grandes responsabilités.
Oui.
Dans ce cas-là, ce serait quoi ta responsabilité en tant qu'homme noir, artiste, césarisé dans le cinéma et dans plein d'autres domaines?
En vrai, je dirais que ma mission, elle est quand même essayer de faire passer un message des gens qui n'ont pas trop la parole, quoi. C'est pas d'enfoncer, c'est pas de nous enfoncer en tout cas. C'est de faire ce que j'ai à faire, mais pas de nous enfoncer en renforçant les clichés, en renforçant les trucs qu'on a tous subis, nous. Tu vois ce que je veux dire? Ma mission, je dirais que c'est déjà d'exister et de montrer que c'est possible. Et c'est aussi d'essayer de faire passer certaines choses que tout le monde ne peut pas dire.
Ouais.
Parce qu'ils n'ont pas la parole. Donc moi, j'essaye de faire passer certains de ces messages-là.
Tout à l'heure, tu as dit que tu te considérais comme quelqu'un de béni.
Oui.
Comment tu vis ça? Comment tu le ressens? Qu'est-ce qui te fait dire que toi, JP Zadi, tu es béni?
Je le vois par rapport à la condition des gens qui m'entourent et tout. Et je vois quand je me lève la chance que j'ai de me lever, d'aller faire un travail que j'aime, de gagner beaucoup d'argent. Même si je fais beaucoup de choses pour mon entourage et tout, mais je sens que comparé aux autres autour de moi, j'ai quand même plus de choses, tu vois. Et donc, par contre, je le vis très bien. Hein. Je me sens pas coupable. je me sens pas coupable.
Mais
je me
sens travaillé pas... dur pour ça.
Oui, j'ai travaillé dur pour ça, mais. J'ai des amis acteurs qui vont voir un peu des psys, qui se disent « Mais pourquoi moi? Pourquoi truc ?» Moi, je n'ai pas du tout ça. Moi, je le vis très bien et je l'accepte. Et je me dis, par contre, c'est important pour moi de me diriger vers l'extérieur. Pas me renfermer sur moi, sur ma chance et tout. Donc, du coup, je produis d'autres gens. Je fais des choses pour ma famille, pour mon entourage. Si je peux aider, je n'hésite pas à aider. En fait, je pense que le fait d'avoir cette situation-là, me donne pas la responsabilité, mais en tout cas, je peux pas refuser d'aider les autres. Parce que moi, on m'a tellement donné, on m'a tellement fait pour moi que je peux pas refuser d'aider quelqu'un à côté de moi, quoi.
Et ce serait quoi pour toi, pour clôturer le prisme de la célébrité, ce serait quoi pour toi le grand enseignement que tu as reçu ces derniers mois?
Le grand enseignement que j'ai reçu ces derniers mois, c'est que la puissance du travail et de la confiance en soi, c'est inouï comment ça... C'est puissant, quoi. La puissance de la pensée, du travail, en fait, de l'acharnement,
oui.
C'est fou ce que ça apporte. Et moi, En fait, je pensais même pas que j'allais arriver là où je suis, quoi. Mais j'ai tellement travaillé, tellement été acharné, tellement pensé au truc. Ouais, t'inquiète, ça va le faire. Allez, après, j'en ferai d'autres, machin, tout ça. Mais j'ai l'impression que le processus de la pensée, du travail, de l'acharnement, de la concentration, c'est fou comment ça ouvre des portes de malade. Et on n'en parle pas assez, en fait, de ça.
Le travail, c'est vrai que c'est hyper important. Mais est-ce que tu considères qu'avoir le bon mindset, le bon mental, c'est aussi primordial?
Ah non, c'est méga important, frère. En fait, moi, je ne me considère pas, je te jure que c'est vrai, je ne me considère pas spécialement talentueux, je ne me considère pas spécialement intelligent. Je ne crois pas que je suis mieux que personne. Il y en a qui sont 10 000 fois mieux que moi, plus talentueux, plus intelligent, plus réalisateur.
Plus beau gosse.
Plus beau gosse, ouais, ça m'étonnerait. Plus beau gosse, ça m'étonnerait, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai l'impression que ce qui a fait ma force, c'était vraiment justement ça, le mindset. Le fait d'avoir confiance en soi et d'y aller et de ne pas calculer le jugement des autres et tout. Là, sur ce terrain-là, je suis méga puissant. Sur le terrain du talent, du je ne sais pas quoi, ça se discute, tu vois. Il y a toujours plus marrant, il y a toujours plus beau gosse, il y a toujours tout. Mais sur le terrain du mindset...
Le mental.
Et le mental, je suis méga puissant.
Ça vient d'où? Est-ce que c'est quelque chose que t'as bossé ou c'est genre ça vient de ton éducation, ouais. Ça vient de...
Non, je pense que c'est un mélange. C'est un mélange de tout. Il y a l'éducation. Le fait aussi, c'était une bénédiction d'être né pauvre, je pense. D'être né pauvre, d'avoir eu beaucoup d'obstacles. De savoir ce que c'est souffrir pour avoir les choses. De savoir on passe par des mauvais moments avant d'arriver à des bons moments. En fait, je pense que c'est l'éducation, ma condition. Et après, voilà, la vie fait que voilà, j'en suis arrivé là, tu vois. Mais je pense que être né pauvre, ça m'a beaucoup apporté. Vraiment, être né en galère, ça m'a vraiment beaucoup apporté.
Qu'est-ce que ça t'a apporté? Le dépassement de soi,
ouais.
C'est ça?
Ouais, ça m'a apporté, et puis le sport aussi.
Ah
mais,
oui.
mais être en galère, ça m'a apporté, je sais pas... En fait, quand t'as déjà un peu souffert quand t'es jeune, mais souffrir pour avoir quelque chose après, c'est normal. Tu vois, vu que t'as déjà galéré, en fait, tu étais petit, t'avais pas de cadeau de Noël, t'avais pas de cadeau d'anniversaire, t'avais, tu vois,
ouais.
Bon, à l'été, tu restes tout l'été, tu restes au quartier avec tes potes et tout.
Ouais.
Tu vois, le fait d'avoir vécu tout ça, ben, quand tu dois souffrir pour avoir quelque chose après,
tu connais.
Tu t'en fous,
tu
en fait.
Tu connais les gammes, en
ouais,
fait.
Ouais, tu vois ce que je veux dire, je sais ce que c'est souffrir. Donc, du coup, c'était normal pour moi de galérer pour avoir ce que j'ai.
Ok, on bascule sur l'inspiration.
Ouais.
JP, est-ce que toi, tu arrives à comprendre ton processus créatif et d'où vient ton intuition?
Bah,
les idées?
Franchement, c'est un grand mystère, je me pose la question même sur ça. Mais en tout cas, je sais que j'ai l'impression en tout cas que l'intuition, les idées, machin, c'est quelque chose qui est dans l'air et qu'à un moment, t'attrape. Pour une raison, je sais pas quelle est la raison, mais j'ai pas l'impression que ça vienne vraiment de moi quand même. J'ai l'impression que c'est plutôt des choses qui sont autour de moi qui gravitent et que ma conscience attrape à un moment et dit ouais, ça m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire?
Complètement.
Et j'ai peut-être la chance d'avoir peut-être conscience que c'est pas spécialement moi, mais qu'il faut que je sois vigilant aux choses qui me traversent. Pour que je puisse en faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire?
Pour capter les pépites.
Ouais, voilà.
Et passer à l'action.
Exactement.
C'est ça qui fait la diff.
Oui, passer à l'action, c'est ça qui fait la diff. Mais l'intuition, les idées, machin, tout ça, j'ai l'impression qu'il y en a partout. Mais c'est juste que ceux qui arrivent à avoir les bonnes idées, c'est ceux qui ont conscience que c'est une bonne idée et qui passent à l'action. Mais j'ai pas l'impression que je suis vraiment le générateur de tout ça, quoi.
Je vais te raconter une anecdote qui est hyper cool. C'est une anecdote qui concerne Michael Jackson.
Ouais.
Il expliquait que lui, parfois la nuit, il appelait ses ingés du son au milieu de la nuit pour qu'ils viennent enregistrer ses voix, prendre les mélodies. Tu vois, il les réveillait au milieu de la nuit comme ça parce que l'inspiration était tombée là,
ouais.
Et fallait qu'il enregistre les mélodies et tout. C'était important pour lui.
Oui.
Et un jour, il y a un des techniciens qui lui dit mais pourquoi en fait? Pourquoi tu nous réveilles la nuit? Pourquoi tu ne peux pas attendre demain matin? Et Michael Jackson, il avait eu cette réponse. Il avait dit: si je ne chante pas cette chanson, je sais que Prince la fera.
Ben voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est, ouais, je pense que c'est ça.
Comme si c'est des paillettes, tu vois, d'or qui tombent comme
oui,
ça.
Oui, exactement, exactement. Mais en plus, je me suis dit, c'est fou que tu dises ça, parce que je me suis dit la même chose sur un film avec un autre réalisateur.
Ah ouais.
Je vais pas dire les noms, mais j'ai eu une idée d'un truc et je me suis dit, putain, faut que je la fasse, sinon lui, il va le faire.
Ouais.
J'ai eu exactement la même idée.
C'est hyper intéressant parce que tu peux te dire que, ok, si les idées, l'intuition, tu vois, planent comme ça au-dessus de nos têtes, mais toutes les têtes.
Oui, toutes les têtes.
Toi, en fait, je pense que ce qui fait la différence, c'est la longueur de nos antennes pour les capter.
Oui, oui, oui. Tu vois ? Et avoir conscience aussi qu'il faut être sur le qui-vive et que ça, c'est partout et que tout le monde peut les avoir et tout. Mais toi, il faut que tu chopes le bon truc au bon moment. Sinon, ça va partir. Tu vois c'est ce que ça. Je veux dire ?
Le timing est hyper important.
Ouais, le timing est hyper important.
Parce qu'une bête d'idée en 2022, ça se trouve, elle était éclatée au sol il y a 3 ans.
Bah oui, et puis c'est surtout qu'une bête d'idée... moi, en tout cas, comment je conçois, je pense qu'il y a d'autres gens qui ont eu cette idée-là aussi. Mais c'est juste qu'eux, ils n'ont pas eu la force... l'impulsion de concrétiser le bail, tu vois ce que je veux dire? Mais je suis pas le génie incroyable. Mon film, n'importe qui aurait pu le faire. C'est juste que moi, j'ai capté le truc et après, je l'ai mis en application.
Ah ouais, en action.
Ouais.
Est-ce que tu penses que c'est le projet, l'idée qui a germé, qui tord le temps? C'est-à-dire, l'idée, elle est tellement impactante qu'elle crée ce qu'on appelle un momentum, tu vois, c'est-à-dire un moment hors du temps.
Oui.
Et elle plie le temps et l'époque.
Oui.
Ou... est-ce qu'il faut que ça soit l'époque qui accueille la bonne idée? Tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui, oui. Non, je pense que c'est l'idée plus qui plie l'époque, quoi. Je pense que par rapport à mon expérience, qui ait eu George Floyd ou pas, je pense que c'était le moment de parler de ce sujet-là. Après, George Floyd est arrivé, malheureusement. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont tellement importantes, tellement profondes, tellement puissantes, que tu la mets maintenant, frère, ça passe.
Il
n'y a rien à faire. Ça crée le truc. Après, il se trouve que voilà, il y a eu des choses qui sont passées autour de ça. Mais je crois vraiment que quand l'idée est puissante, quand elle est profondément ancrée et qu'elle est...
Elle met tout le monde d'accord.
Ouais, ça met tout le monde d'accord, il n'y a rien à faire. Ouais. C'est pas une histoire d'époque ou quoi que ce soit.
Hyper intéressant.
Bien sûr, je suis intéressant et folle celle-là.
Spiritualista. C'est quoi qui t'inspire en général?
Moi?
Est-ce que c'est le silence, la solitude, ce moment-là où les idées arrivent, tu vois, où t'es disponible, ce qu'on appelle le calice, tu vois, être disponible comme ça, recevoir les idées. Est-ce que c'est. Quand t'es en famille, est-ce que c'est quand il y a une émulation, que t'es avec des potes rigolos et ça rigole et ça part en délire et là, tu vois, ça arrive, ça met de l'eau dans ton moulin créatif. C'est à quel moment, toi, que t'es disposé à recevoir?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Souvent, ce qui m'anime, moi, il y a plusieurs choses qui m'inspirent. Moi, d'abord, les premières choses qui m'inspirent, déjà, sont les gens. Et ce que j'admire le plus chez les gens, c'est l'intégrité. Par exemple, toi, tu le sais très bien, mais une de mes principales sources d'inspiration, c'est Tupac. Mais je te dirais Tupac comme je peux te dire Kurt Cobain, comme je peux te dire Old Dirty Bastard, comme je peux te dire Thomas Sankara ou Cheikh Anta Diop. Moi, ce qui m'inspire le plus, c'est quand je vois les gens intègres. Jules, c'est les gens intègres qui ne changent pas et qui sont comme ils sont et qui te donnent ce qu'ils sont. En fait, quand je vois ça, je suis très admiratif. En fait, ce qui m'inspire d'abord, sont les gens intègres. Et après, dans un deuxième temps, c'est vrai que ça se passe aussi souvent quand je suis seul. Quand je suis seul et quand mon esprit est ouvert et que, tu vois, je suis disposé comme ça, paf, là, je chope les trucs. Donc voilà, il y a deux choses. Il y a soit l'intégrité des gens. Quand je vois, par exemple, je sais pas, je peux regarder une interview de Olderty Bastard ou de Thomas Sankara, et je vois que le gars est tellement lui-même, tellement, je sens qu'il est en accord avec lui-même et tout, je dis putain, c'est comme ça qu'il faut que je sois. En fait, je prends l'info comme ça, et après je me dis putain, mais ça c'est tellement ma quête absolue de pas bouger.
L'alignement en fait.
Ouais, voilà, ça vraiment, j'adore ça. Et aussi, il y a ouais, le silence. Quand je suis en famille et tout, j'ai pas trop d'inspi parce que je suis préoccupé par tout le monde, par les gens, par les petits, tout ça. Mon esprit, il est totalement lessivé par les gens quand je suis autour de moi. Mais souvent, voilà, ça se passe quand je suis tout seul. Ou quand le soir aussi, le soir, ça vient souvent. Quand je suis couché dans mon lit, avant de dormir, machin, tout ça. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Soit le soir ou soit le matin au réveil.
Ouais. Et tu notes, t'écris, tu non, fais pas des mémos
pas.
Tu...
Non, je note pas, je note jamais.
Comment tu fais?
Bah, je garde ça dans ma tête.
Tu perds rien?
Ouais, je perds rien. Je garde ça dans ma tête et tout. Ma tête, c'est un frigo à idées. Il y a plein de compartiments, il y a plein de trucs là dans ma tête. Là, je te parle en ce moment, je suis en train d'écrire 3 films en même temps. Et puis aussi, j'ai l'impression d'être animé par l'action. Moi, il faut que ça bouge, il faut que... Quand je crée un truc, souvent, en même temps, je recrée un autre truc par-dessus parce que je rebondis dessus pour aller sur autre chose et tout. Ouais, ce qui me fait aussi kiffer, c'est aussi l'animation, l'émulation. Quand mon cerveau, il est en train de créer, en train de réfléchir à des trucs. Et souvent, quand je suis en train de travailler sur un film, en fait, je travaille en même temps sur un autre film.
Okay.
Parce que le fait de faire travailler la machine, eh ben, ça me crée encore plus d'énergie et je crée encore un autre truc.
Okay.
Ouais, souvent, c'est comme ça.
Ouais, toi, en fait, ton intuition, ta créativité, elle arrive en faisant, en
ouais,
faisant,
exactement.
En faisant.
Quand je fais, ça, je sais pas, ça crée un processus chez moi qui...
T'ouvre un robinet, quoi.
Ouais, exactement. Et donc, souvent, j'ai l'idée du prochain film quand je suis en train de faire ce film-là.
Est-ce que t'arrives quand même à rester dans le ton, dans la tonalité de chaque projet, en fait?
Bah ouais, parce que malheureusement, comme c'est moi qui le fais, et moi, je suis assez mono, tu me connais, hein, je suis sur un truc... Je suis sur un truc et tu sais quoi, je me suis rendu compte que finalement tout ce que je dis souvent c'est presque toujours la même chose.
Sans blague.
Ouais, c'est presque toujours la même chose. C'est toujours un gars qui est dépassé par quelque chose et on lui dit mais tu n'y arriveras jamais, jamais. Et
le parcours de l'anti-héros.
Exactement. C'est là, ma série, c'est presque la même chose que tout ça. On doit le prochain film, c'est machin. J'ai l'impression.
C'est des copier-coller quoi.
Ouais, je sais pas pourquoi je suis animé par le truc du.
Ça te touche.
Ouais, ça me touche.
La vulnérabilité.
La vulnérabilité me touche et aussi le truc du mais tu n'y arriveras pas. Arrête.
Est-ce que c'est ton histoire finalement que tu nous racontes dans tous les projets?
Oui, je pense. Je pense que c'est mon histoire que je décline dans plein de trucs. L'histoire du gars, et puis j'adore en plus. Il y a un truc que j'adore dans la vie, c'est quand les gens ils me prennent pour un con. Mais là, ça commence à s'arrêter un peu. Mais j'aime trop quand les gens ils me sous-estiment, ils me truquent. Je suis hyper à l'aise dans une situation quand il y a un mec qui se croit supérieur à moi et que moi je l'observe, je suis en totale observation et je continue à faire le con, tu vois. Mais j'adore cette position.
Je pensais à toi en lisant L'art de la guerre de Sun Tzu.
Ouais.
Faut que tu le lises. Il y a toute une partie qui est « Quand tu es prêt, fais croire que tu es loin.
Ouais.
Quand tu es bon, fais croire que tu es faible.
Ouais. »
Et genre, c'est une des tactiques de guerre la plus puissante. Et toi, tu l'incarnes juste parce que tu assumes ton côté un peu genre joyeux luron.
Oui, tout à fait. Oui.
Et du coup, c'est hyper intéressant parce que quelque part, c'est un peu comme si tu joues de ça aussi, je pense maintenant. Parce que tu as compris que c'était une de tes forces.
Oui, beaucoup, beaucoup. Oui, je joue de ça, ça fait partie de mes armes. Mais là, c'est relou. Parce que maintenant, les gens, ils savent que j'ai fait des films, que machin...
Que t'es successful.
Ouais, donc c'est relou. Mais j'adore le parcours du mec à qui on donnerait même pas l'heure, tu vois. On dirait, ah, vas-y, c'est un connard, il y arrivera jamais, il est trop con, machin. Et finalement, il y arrive. Ouais, t'as raison, peut-être c'est l'histoire de ma vie. Mais ce postulat-là, pour moi, c'est le meilleur. De... pas prouver aux gens, mais du gars qu'on croyait pas et finalement il se révèle en faisant les trucs et finalement il est capable et tout, c'est le truc que j'adore.
Est-ce que dans la vie c'est aussi les personnages que tu trouves les plus touchants?
Bah oui. Moi, tu sais quoi, j'ai du mal avec les trucs genre Marvel, le super-héros, j'en vois aucun parce que je sais pas, ça me parle pas, je préfère vraiment les films de loose, les films français avec Pierre Richard ou les trucs avec Louis de Funès. Ouais. Quand il fait le fort avec les faibles et il est faible avec les forts, tout ça. Tous ces trucs de faiblesse, de losing et tout, là, C'est les trucs que je préfère.
Vous avez vu, Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs.
En tout cas, c'est pas monsieur que ça risque d'arriver.
Quoi donc ?
Que mademoiselle épouse un noir.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Que monsieur est peut-être un peu raciste.
Raciste ? Moi, raciste ! Salomon, raciste !
Puis j'ai l'impression aussi qu'on est plus... Moi, je me sens vraiment loser. Au fond de moi, profondément, peu importe l'argent que t'as sur ton compte, peu importe tout ça et tout, je me sens vraiment loser. Et quand je vois des films de loser, j'arrive vraiment à me projeter
dessus.
À connecter,
ouais.
Ouais, je suis connecté à la lose, quoi qu'il arrive.
Mais parce que finalement, c'est ce qui fait notre humanité, tu vois. Parce qu'en vrai, on pense qu'on maîtrise tout,
ouais.
Mais on maîtrise rien. On sait même pas ce qu'on fait ici, tu vois ce que je veux dire.
Non, on sait qu'on va mourir.
Ouais, voilà.
Y a aussi un autre truc qui m'a vraiment aussi chamboulé dans ma vie. C'est qu'à un moment, quand j'avais 16 ans, j'ai fait un accident de voiture. Et j'ai un de mes meilleurs potes qui est mort dans l'accident de voiture.
Ouais.
Et je me rappelle que ben, quand je suis sorti de cet accident-là, je me suis dit, mais attends, donc c'est ça la vie en fait. On est là en train de faire les malins et tout ça, et puis 5 minutes après, on meurt. Non, mais c'est ridicule cette histoire. Faut absolument que je m'éclate. Je me rappelle vraiment du moment où je me suis dit ça. Je me rappelle vraiment.
C'était ta voix off, c'était la voix dans ta tête.
Ma voix off m'a dit, mais frérot, t'étais avec ton gars sûr là, là il est mort. Mais donc en fait, tout ça là, c'est pas sérieux en fait. Tous ceux qui se prennent au sérieux, tous ceux qui machin, tout ça. Parce que demain matin, ils peuvent mourir, frère, ils traversent la route, ils meurent. La seule solution, c'est s'éclater, frérot. Ah, faut absolument s'éclater, sinon on perd du temps. Et je te dis, je sortais de chez moi comme ça, bon j'ai fait l'accident, l'ambulance m'a ramené à la maison, ma mère, oh JP, nanana, tout le monde était hyper inquiet, et moi je suis sorti 5 minutes, et je me suis vraiment dit ça.
Ouais, tu t'es parlé à toi-même,
je me suis parlé,
une extrême lucidité.
Une extrême lucidité, j'avais 16 ans, et je me suis dit, mais attends, il faut vraiment s'éclater, parce que ça passe vite. Ah oui, il faut absolument que je m'éclate, parce que là, moi j'ai pas envie, t'imagines l'angoisse si tu rigoles pas et tu meurs comme ça après. Et donc j'ai l'impression, dans mon, je sais pas pourquoi, dans mon inconscient, de ce, que chaque minute qu'on profite pas, chaque minute qu'on kiffe pas, même si on peut faire des erreurs, mais chaque minute qu'on vit pas à fond, j'ai l'impression que c'est du temps perdu. C'est pour ça que je suis tout le temps en train de rigoler, d'essayer de vivre les trucs à fond, parce que j'ai l'impression que sans ça, on perd du temps, quoi.
Mais ça, c'est vrai que c'est une de tes grandes qualités humaines, c'est le fait d'être tout le temps sur des hautes vibrations, t'es sur la joie... T'as envie de partager ça, de faire le rigolo, de détendre l'atmosphère, d'être loufoque, tu vois, c'est vraiment ton truc. Mais ce qui est intéressant avec toi, et c'est un des trucs que j'admire chez toi, c'est que...
Ah, il y a des trucs que t'admires chez moi.
Ça, là, en l'occurrence, c'est que tu parlais d'intégrité et tout ça, c'est que moi, je t'ai vu évoluer dans plein de sphères différentes et que t'es toujours le même. C'est-à-dire que le degré d'attention, d'écoute... de délire que tu vas avoir avec un stagiaire qu'on aurait pu avoir à la radio, tu vois, ou t'es invité à l'Élysée chez Macron. En fait, tu restes toi-même, peu importe le statut de la personne qui est en face de toi.
Ouais.
D'où ça devient ça ?
Franchement, je sais pas. Ah non, mais...
T'as laissé tomber ton masque social à
ouais,
quel moment ?
Ouais,
quel
non,
moment
mais est-ce que je l'ai déjà pris ? C'est ça la question.
Je te pose la question.
Est-ce que j'ai déjà pris ? Non, le masque social, tout ça, non, j'ai pas... Ça m'a jamais trop intéressé, tout ça. J'ai l'impression que... Non, mais en fait, chez moi, c'est un peu une faiblesse, ça. C'est-à-dire que ça me fatigue de faire semblant. Pour moi, c'est trop fatigant d'essayer de faire « Bonjour, comment allez-vous ?» En fait, j'ai pas l'énergie de faire ça. Donc du coup, pour moi, vraiment, je te le dis, hein, le plus facile pour moi, c'est de rester moi-même. Quand je commence à... Si j'essaye de vouloir truc et tout, ça me fatigue. Donc du coup, je préfère être moi-même, quitte à être pris pour un con, quitte à ce qu'on ne me respecte pas et tout, mais je trouve ça plus facile. Mon énergie, je préfère la dépenser dans des trucs importants, mais genre se faire passer pour quelque chose d'autre, franchement, c'est un peu de la facilité pour moi. Ça me fatigue, en fait. J'ai pas envie.
Est-ce que tu as une discipline énergétique, voire spirituelle ? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais, je ne sais pas, le matin ? Est-ce que tu te boostes mentalement ? Est-ce que tu te parles à toi-même ? Est-ce que tu pries ? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour te réaligner ?
Ouais.
Ou pour te connecter à d'autres sphères ?
Non, je n'ai pas spécialement de trucs que je fais pour me réaligner. Mais par contre, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est de savoir au quotidien que je suis dépassé par quelque chose et que je ne suis pas le maître. Je dois accepter, en tout cas j'accepte facilement qu'il y a quelque chose de plus grand en fait, qui me dépasse et que parfois il faut s'en remettre à cette chose-là qui est plus grande que moi. Ça, j'en ai conscience.
Est-ce que c'est quelque chose d'étranger à toi ou est-ce que c'est une version de toi-même qui est supérieure?
Non, j'ai l'impression que c'est une partie de moi. En tout cas, que je fais partie de ce truc-là.
D'un tout.
Ouais, je fais partie de ce tout-là qui me dépasse et que parfois, ce tout, eh ben, ce tout-là peut me faire passer par des moments difficiles. Eh ben, je l'accepte. Parce que c'est moi, en même temps c'est pas moi, c'est le tout. Tu vois ce que je veux dire? Et en tout cas, j'ai pas de choses que je fais, de dogmes par rapport à la spiritualité, ouais. J'ai pas de rituel. Mais en tout cas, je sais que j'ai conscience tout le temps que je fais partie d'un tout et que je suis une infime part de ce tout-là et qu'il faut l'accepter dans cette condition et que quand on te donne des choses positif, eh ben, il faut l'accepter. Quand c'est négatif, eh ben, il faut quand même l'accepter. Il ne faut pas en vouloir à personne. Et oui, et j'ai aussi le truc de me dire que j'essaye de ne pas en vouloir à personne. Peu importe les coups de crasse de ouf qu'on me fait, mais j'essaye de en vouloir à personne et de me remettre moi en question et de me dire les gens finalement n'ont pas trop d'impact sur moi. C'est moi-même qui est d'impact sur moi. Je sais pas comment expliquer.
Ouais, si t'as des attentes particulières.
Oui,
c'est
voilà.
Toi qui a eu ces attentes.
Exactement. Je dirais jamais de quelqu'un, ouais, bâtard, cet enculé, t'as vu ce qu'il m'a fait, tout ça et tout. Jamais je dirais un truc comme ça. S'il m'arrive une couille, je dirais c'est de ma faute parce que c'est moi qui l'ai mis dans cette position-là, de trucs et tout. Et ça me permet d'être léger et ça me permet de remettre les choses à plat, quoi, tu vois. Parce que en vouloir aux gens, en vouloir au destin, en vouloir à Dieu, ça fait pas partie de ma ça fait pas partie de mes
lignes, philosophie.
De ma philosophie. Ouais. Moi, ma philosophie, c'est moi et ce qui m'arrive, et ben souvent c'est à cause de moi. Si
c'est à cause ou grâce?
Non, pas du tout. Quand il m'arrive un truc de bien, c'est pas moi, c'est le tout qui me l'a apporté. Mais quand il m'arrive quelque chose de mal, c'est à cause de moi.
Ah bon?
Exactement.
Ah, c'est intéressant comme vision.
Ouais ouais, quand il m'arrive quelque chose de bien, je sais que je suis pas le seul facteur qui ait fait que cette chose-là m'arrive, tu vois ce que je veux dire?
Okay.
Par contre, quand j'ai des choses mauvaises, je sais que c'est de ma faute à moi.
Intéressant.
Et je l'accepte.
Un peu comme si y avait tes bas instincts,
oui.
Du coup, qui te reliaient à quelque chose. Et du coup, tu sais que si ça ne se passe pas comme ça devrait se passer,
ouais.
Ou que tu as des émotions qui ne te font pas vraiment kiffer sur le moment, tu te dis, ok, les bas instincts, c'est moi,
ouais.
C'est mon humanité.
Exactement.
C'est JP lui-même.
Ouais, exactement, tu as tout compris.
Et quand c'est des bénédictions, c'est la version divine, en fait.
Ouais, et c'est pas moi, c'est quelque chose qui me dépasse, machin, tout ça et tout. Et il faut pas le prendre pour toi. Faut dire que non, c'est quelque chose qui m'arrive parce que peut-être j'ai fait des choses qui ont fait que c'est arrivé, mais c'est pas moi personnellement qui mérite tout ça. Tu comprends ce que je veux dire?
Et ça t'arrive de dire merci, d'avoir de la gratitude,
oui,
pour,
oui,
tout ça?
Oui, bien sûr.
Tu l'exprimes verbalement?
Ouais, je l'exprime verbalement, oui. Je parle à moi, mais je parle au tout en même temps.
C'est chouette.
Et je dis, ouais, merci pour tout ça, merci, ouais. Je vais essayer de continuer, d'être positif, et même si ça devient négatif, ben, ce sera de ma faute à moi, c'est parce que j'aurais pas bien fait ça, tu vois. En fait, c'est difficile pour moi d'en vouloir à quelqu'un.
Ouais.
Je sais pas si c'est de la mégalomanie ou quoi, mais j'arrive même pas à me dire, ouais, cet enculé, ça m'arrive de me le dire, mais je lui en veux pas concrètement. Tu vois
ça, ça t'est déjà arrivé de te sentir trahi et d'être triste?
Oui. Bah oui. Oui, ça m'est déjà arrivé, ouais.
Comment il est JP quand il est triste?
Il est en action. Il est en action et il fait des choses et il essaye de passer autre chose par l'action. J'essaye de créer. Quand je suis triste, je suis dans la création, j'écris, je fais des choses et tout. Et quand je suis triste, en fait, le truc qui me fait vraiment, qui me ferait gerber, c'est d'être triste et de le
transmettre
aux autres, en fait. Et ça, je trouve, les gens qui font ça, ils me foutent les nerfs, frère.
C'est comme si tu diffuses un poison quelque part.
Ouais, non. Quand je suis triste, c'est peut-être le moment où je suis plus en création, ou peut-être même je vais faire plus de blagues, tout ça et tout, parce que je veux absolument pas insuffler ça aux gens qui sont autour de moi.
Tu veux pas être nuisible énergétique?
Non, pas du tout. J'ai pas du tout envie de ça, en fait.
Et ça t'arrive, t'en parles quand tu ressens des émotions comme de la tristesse ou de
non.
la colère ou,
non,
ou de la culpabilité?
Pas du tout, j'en
t'en parles jamais?
Jamais, je garde tout pour moi. Tout est en moi et je le lessive tout seul et je le digère tout seul.
Je lessive tout seul.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, je ne parle jamais des choses qui vont pas bien parce que je sais pas, en fait, j'ai pas envie d'apporter ça au monde. C'est comme si j'avais un problème psychologique qui me dit en moi, non, moi j'ai envie d'apporter que du bien. J'ai pas envie de faire chier les gens, j'ai pas envie de faire chier personne, en fait. Et j'ai envie de garder tout ça en moi. Et moi, ce que je veux laisser, en tout cas comme trace, c'est que des choses bien. Mais c'est con, hein. Mais en tout cas, jusque-là, je gère bien, en fait. J'ai pas besoin de psy, j'ai pas besoin de trucs. Toutes mes galères, je les garde en moi et j'essaye de les transformer en créativité.
Est-ce que tu les connais, tes zones d'ombre?
Oui.
Les ombres, oui. De JP, tu les connais?
Bah oui.
Ouais.
Mais il y en a encore... il y en a que je connais, mais je sais qu'il y en a d'autres que je vais apprendre à connaître encore, tu vois ce que je veux dire? Mais oui, il y en a que je connais.
Tu vas avancer dans la grotte intérieure.
Ah oui, 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 oui.
Il fait sombre en général.
Non, la face sombre, j'en ai connu, je sais ce que c'est, mon côté dark et tout, et j'ai conscience que la grotte est immense, frérot. Moi, j'ai vu que quelques pas. Moi, j'ai vu que quelques mètres, tu vois ce que je veux dire?
Est-ce que ça t'a fait peur, ce que t'as découvert?
J'ai pas spécialement peur, non. En tout cas, tout ce qui concerne ma personnalité, moi, ma vie, ça ne me fait pas spécialement peur. Moi, j'ai plus peur pour les gens que j'aime, pour mon entourage et tout. Mais moi, en tant qu'être humain, j'ai l'impression que j'ai tellement de la chance, je suis tellement humble. Tu vois, j'ai eu la chance d'être pauvre, j'ai eu la chance d'être en galère, j'ai eu la chance d'avoir un peu d'argent, tout ça. Je n'ai pas spécialement peur pour moi. Ma peur, elle est plus pour mes gosses, ma famille, mes potes et tout. Moi, je n'ai pas spécialement peur. Moi.
Elle est belle, cette phrase, j'ai eu la chance d'être pauvre.
Ouais, c'est la vérité. C'était une vraie chance pour moi d'être pauvre. Ça m'a fait vraiment... Ça m'a apporté tellement de choses d'être un chien, d'avoir mes parents qui ne peuvent rien faire. Quand tu arrives au bout du bout et que tes parents n'ont pas de thunes, n'ont pas de trucs... Je me rappelle d'un truc qui m'avait fait vraiment mal, moi, à l'époque, quand j'étais jeune et tout. Je me rappelle, c'était à Noël. Après Noël, il y avait les vacances de Noël et après, il y a la rentrée. Et les petits de ma classe, ils disaient, t'as eu quoi, Noël? Toi, t'as eu ça, t'as eu ça, t'as eu ça. Et on me demandait, toi, JP, t'as eu quoi? Et je me rappelle que je mentais un peu, mais j'avais mal au cœur de mentir.
Ouais.
Ça me faisait mal. Mais à part ça, vas-y, frérot.
Moi, je faisais la même chose, mais quand on me disait, t'es parti où en vacances?
Ah, tu mentais. Non, les gens savaient qu'on bougeait pas, wesh. Donc, je pouvais pas mentir sur les vacances.
Il y a une anecdote que j'adore. J'étais un peu déçue parce que tu me l'avais raconté à moi dans un train quand on revenait d'un déplacement avec la radio. Ouais. Et j'ai vu que là, t'en as parlé à Combini ou Brut. Donc, du coup, il y a des millions de gens qui maintenant connaissent cette anecdote. Ouais. Tu me la raconteras tout à l'heure. Je parle de l'anecdote, tu sais.
Oui.
Est-ce que tu as déjà vécu une expérience mystique en dehors de celle-ci?
Une expérience mystique en dehors de celle-ci?
Extrasensorielle, extraordinaire, quelque chose de...
Ouais.
Genre, un peu comme un miracle ou un truc inexplicable, quoi, tu vois?
Non, quand j'étais jeune, parfois, vers 20 ans, tout ça... Putain, mais tu me fais faire des trucs d'ouf, toi. Non, quand j'étais jeune, parfois, quand j'étais couché, j'avais l'impression que mon âme ait quitté mon corps et que je passais, que j'avais une vue un peu d'ensemble.
Ouais.
Ça m'arrivait genre que j'avais 22, 23 ans et ça me faisait flipper. Mais ça m'est arrivé quelques fois, ouais. Où je suis couché et j'ai l'impression que, je sais pas, c'était trop, j'arrive pas à expliquer.
Ça s'appelle une sortie astrale.
Ah ouais?
Ouais.
Ben voilà, ben ça je pense que je l'ai vécu quelques fois quand j'avais 20 ans.
Et qu'est-ce que tu voyais? Où tu allais?
Non, c'était une sensation. C'était pas... j'allais pas voyager
explorer.
Hors de Paris, ouais. Tu vois. Mais juste, je sentais qu'il se passait un truc et que je sortais de mon corps et que j'avais une vue d'ensemble sur la pièce où j'étais. Ça m'arrivait quelques fois quand j'étais jeune.
Et ça t'interrogeait? Ça te faisait un peu flipper ou t'étais en mode genre non, ça va, c'est cool,
j'en
flotte?
J'en avais absolument rien à foutre. Je te le dis, hein. Je n'avais absolument rien à foutre. Je sais pas. Et puis, j'ai l'impression que j'ai conscience quand même le fait d'être africain et d'avoir cette spiritualité africaine. Je sais que la vie, c'est pas que Zara, H&M, machin. Je sais qu'il y a plusieurs dimensions et que nous, aujourd'hui, en tout cas sur Terre, les gens sont plutôt sur une dimension Zara H&M. Mais moi, je sais qu'il n'y a pas que Zara H&M et qu'il y a plein d'autres choses qui nous dépassent. Donc, en fait, tout ce qui concerne ces sujets-là, ça ne me faisait pas très peur parce que j'étais un peu... Mes parents m'ont inculqué la spiritualité africaine, la vie, la mort qui fait
les
partie
esprits.
De la vie, les esprits, tous ces genres de bails-là. Donc, ça ne me faisait pas spécialement peur.
Ouais. Et bah, du coup, j'ai envie que tu nous racontes cette fameuse anecdote...
De Johnny.
L'anecdote Johnny, c'est une pépite.
Ouais, l'anecdote de Johnny Hallyday, oui, elle est incroyable. J'étais chez WAM le soir, il y avait un match du PSG qui venait de se terminer. Je me couche, et quand je me couche, il se passe un truc très bizarre. En fait, c'était pas un rêve, mais c'était plutôt du domaine de la sensation. Voilà, c'est ça le truc. C'est le domaine de la sensation. C'est que pendant que je suis endormi, je sens que je suis Johnny Hallyday. C'est difficile à expliquer. Sans miroir, hein, sans rien du tout. Mais je sens que je suis Johnny Hallyday. Et je sens que je suis en train de mourir. Et je sens que les gens sont hyper tristes autour de moi. Et je sens que les gens m'aiment, mais de fou. Alors, je t'explique. C'est comme s'il y a une caméra GoPro qui est sur mon front. Et la caméra GoPro, elle est sur le crâne de Johnny Hallyday. Et moi, j'ai toute la vue de Johnny Hallyday. En 360. Et je sens que je suis en train de mourir. Je suis dans une chambre, dans une maison. Je ne suis pas à l'hôpital. J'ai des sensations de moi en vacances sur un yacht avec des petites filles asiatiques et du soleil. J'ai la sensation de vivre de la joie et du bonheur parce que je suis dans une espèce de maison de campagne avec des petits-enfants. Je sens que c'est mes petits-enfants,
ouais.
Tout ça. Et finalement aussi, j'ai la sensation que je suis en train de mourir et que mon esprit décolle de mon corps et que je monte concrètement dans le ciel. Ouais. Et que je suis en train de mourir, quoi. Et que je suis Johnny Hallyday et que je suis en train de mourir. Et donc, je me réveille. Mais c'est plus du domaine de la sensation, c'est pas du rêve.
Ouais.
C'est des sens, c'est tous mes sens, en fait, qui sont en train de vivre ce truc-là. Et je me réveille le matin, je suis là en galère. Je dis, putain, c'était quoi ce délire, mon frère? Je ne sais pas si je dois raconter ça à ma meuf ou pas, parce qu'elle, elle aime bien se foutre de ma gueule. Et elle se lève et tout, elle va aux toilettes, elle fait pipi, elle rentre et elle me dit « Ah, il y a Johnny Hallyday qui est mort cette nuit !»
Édition spéciale ce matin, parce que nous avons appris cette nuit la mort de Johnny Hallyday. Il était 2h44.
Et moi, je suis là, je dis « faut que je te parle d'un truc. » Et là, je ne pouvais pas le garder pour moi. Et vas-y, je lui raconte le truc et tout. Et donc, ouais, j'ai l'impression que j'ai vécu avec mes sens les derniers moments de la vie de Johnny Hallyday.
C'est une histoire incroyable.
Mais surtout que le pire, c'est que Johnny Hallyday, j'en ai absolument, dans l'absolu, rien à foutre. Vraiment, j'écoute pas sa musique.
Est-ce que ça crée une connexion, du coup, cette anecdote avec Johnny?
J'ai même pas essayé d'écouter ses albums ou quoi que ce soit. Je suis même pas spécialement sensible à sa musique. Je sais que c'est une grosse star, machin, tout ça. Mais Johnny Hallyday, frère, je ne sais même pas si j'ai déjà entendu une chanson en entier de Johnny Hallyday.
Et comment t'expliques cette expérience?
Oh, je n'ai jamais essayé de me l'expliquer. Après, je me dis que... je sais pas. franchement, je n'ai pas spécialement de... Tu sais que quand je racontais ça, les gens ils me disent « Mais ça ne te fait pas peur d'être un peu mort pour lui et tout ?» Je n'ai même pas vécu ça comme ça, en fait. Et je ne me pose même pas la question. Ça fait partie des choses qui me dépassent et qu'il faut accepter et qui font partie de l'inconscient.
Ouais.
J'essaye pas de mettre des mots, des explications. Ça fait partie de ma vie, de mon histoire.
Ça passe pas par le mental, quoi.
Oui. Ça fait partie de ma vie, de mon histoire, de l'histoire du monde. Et je pense pas que je suis le seul sur Terre à avoir vécu un truc comme ça. Et je l'accepte et vas-y, j'enchaîne, frère. Ok, ça, j'ai vécu ça. Ok, vas-y, enchaînement.
C'est quoi la suite?
Ouais, c'est quoi la suite, ouais. Tu vois?
Il y a un truc qui est hyper intéressant chez toi aussi, c'est ta capacité à matérialiser les choses. Tu vois, à les faire passer du domaine des idées, des pensées, boum, et d'en faire des vrais projets concrets.
Ouais.
C'est un truc que tu arrives à faire avec une grande fluidité, beaucoup de facilité en réalité, depuis des années. Quelles clés, quels tips tu pourrais donner à quelqu'un qui n'arrive pas à passer à l'action? Genre, cette personne a des idées...
Ouais, et là,
elle n'arrive pas, tu
moi,
vois,
je dirais que, moi, idées. Je dirais que souvent, le problème des gens qui n'arrivent pas à enchaîner les idées, c'est qu'ils ont peur de faire de la merde. Et moi, j'ai vraiment pas peur de faire de la merde. J'ai pas peur de faire des nanars, j'ai pas peur de me tromper. Se tromper, l'échec, machin, ça me fait pas peur, en fait. Ça fait partie du processus de création, je l'accepte. Oh, ça peut me faire mal, hein, si je me trompe, si je fais une bouse. Mais j'ai vraiment pas... rater, ça me fait pas peur. Et je pense qu'il faut que les gens se disent aussi que, bon, bah, il peut le faire et il peut le rater. Bon, bah, c'est pas grave. Le prochain, il sera mieux, tu vois. Le truc du... la hantise de rater, de machin, tout ça, ça fait vraiment pas partie de mes... tu vois, j'ai pas peur de
mais surtout
ça,
quand on débute, quand on commence, en fait, c'est
normal de rater. Oui, mais les gens ont tellement envie que les choses soient bien, ils ont envie de du succès, ils ont envie de trucs, tu vois. Et j'ai l'impression aussi que moi la chose, je suis animé par la création, quoi. Je suis animé par faire des choses, pas que ça marche. Si ça marche, c'est bien, Mais je suis plus, tu vois, par exemple, mon prochain film, j'ai hâte de commencer à le faire, quoi, parce que c'est le processus de création qui m'intéresse. Après, que ça marche, Inch'Allah, ça marche, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est plus faire le truc qui m'intéresse.
C'est hyper intéressant, parce que, du coup, tu t'en fous de livrer quelque chose qui est plus ou moins bancal quand tu kiffes faire.
Voilà, tu exactement, t'as tout dit. Mon vrai kiff...
C'est déjà ta récompense.
Voilà, t'as tout dit. Oh putain, elle est forte. Ma récompense à moi, c'est de faire le truc, ouais. D'être en action. Alors je te raconte pas, si je fais un truc et on me paye pour le faire et on me donne de l'argent pour le faire, parce que moi les trucs je les ai fait, j'étais en galère, frère. J'ai commencé par faire des choses, il n'y avait pas de thunes, il n'y avait pas de retombées, il n'y avait que des galères. Alors maintenant, on me donne de l'argent.
T'as le confort.
Pour faire des trucs. Bah, c'est le top du game, on peut pas rêver mieux, tu vois ce que je veux dire?
C'est ça.
Donc oui, moi j'ai l'impression que les gens qui se bloquent, c'est peut-être parce qu'ils regardent trop la finalité du truc. Alors que le vrai kiff, c'est quand tu le fais, tu vois? Ouais. Et plus tu kiffes à le faire, et plus c'est bien, tu vois? Donc la première satisfaction à avoir, c'est d'être en action et de faire le truc, tu vois? Ce qui se passe après, en vrai, on va y aller, faire la promo, tout ça et tout, tu vois. Mais c'est, moi, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire.
Ça me fait penser à une expression, tu me dis ce que t'en penses. Tu sais, bien souvent, les gens, ils partent du principe qu'ils vont recevoir, et de ce qu'ils vont recevoir, ils vont donner. Est-ce que tu penses que c'est à l'inverse qu'il faut voir les choses? Il faut d'abord donner pour recevoir.
Ah oui, 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 c'est cool. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais pas donner pour recevoir. Donner parce que gratuitement en fait, ouais. tu donnes et après si tu reçois tant mieux,
ouais.
Mais j'ai l'impression que oui, les gens ils pensent d'abord qu'il faut recevoir pour donner. Je suis d'accord avec toi, c'est pas le truc. Donne, frère, donne de bon cœur, donne sans compter, donne tout le temps, et même si tu reçois rien, c'est pas grave. Peut-être tu recevras un jour, peut-être tu recevras rien. Mais donner, l'action de donner, t'as déjà gagné quand tu donnes.
Dans mon mental, comment je vois les choses, j'ai l'impression que c'est le même muscle en fait. Que ouais. Donner et recevoir, c'est la même chose.
Oui, 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 c'est la même
chose. Et du coup, vu que toi tu maîtrises le don,
ouais.
avant de maîtriser le recevoir,
entraîne
le muscle déjà dans ce sens-là.
Je suis d'accord avec toi.
Et ensuite, une fois qu'il sera entraîné, ça va se réguler tout seul.
Je suis grave d'accord avec toi. Donner sans compter, donner gratuitement, c'est la clé. Et puis c'est tellement bien de donner. Moi, je kiffe, en fait, partager, donner des choses. Je sais pas. Pour moi, c'est la finalité, en fait, donner. En donnant, t'as déjà, tu vois.
Ouais, ouais.
C'est déjà, t'as gagné.
Mais en plus, tu le vois, quand tu fais un cadeau à quelqu'un que t'as préparé, que t'as organisé, t'es encore plus heureux que la personne qui le reçoit, en fait.
Exactement, exactement.
Tu vois, ça fait grave kiffer. Est-ce que JPZ, il a encore des rêves?
Mais tu veux que je te dise un truc? J'ai pas vraiment de rêve, en fait. J'ai pas vraiment de choses où je me dis j'aimerais faire ça, j'aimerais avoir ça. J'ai pas spécialement de rêve. Mais concrètement, j'ai pas concrètement.
T'as des envies?
Des envies, oui, des envies de création, envie de faire des choses, envie de m'accomplir dans mon travail. Mais j'ai pas de rêve. La dimension du rêve, genre, je rêverais d'avoir ça, je rêverais de faire ça, c'est pas dans mon truc. Moi, y a que des projets, que des choses concrètes que je vais faire.
Toi, ton kiff, ça passe par la mise en action, par les projets.
Ouais, exactement. Mais mon esprit, il n'est pas assez construit pour rêver de « ouais, je rêverais de ça ». Mon esprit, il est composé pour agir tout de suite maintenant sur des choses qui me plaisent et qui me font kiffer, moi.
Ouais, genre t'es connecté à l'instant présent.
Voilà, je suis connecté à l'instant présent.
Et les rêves, c'est comme si ça te déconnectait de l'instant présent.
Ouais, exactement.
En vrai,
et du coup, ça ne fait pas partie de mon environnement. Tu vois, je ne me suis jamais dit, par exemple, « oh, je rêverais d'avoir un César ». Ça n'a jamais été dans mes objets, dans mes ambitions, dans mes projets, tu vois ce que je veux dire? Par contre, kiffer faire mon film, kiffer rigoler avec mes gars, kiffer réaliser le truc, ça c'est des choses que je fais concrètement avec plaisir maintenant. Mais ma finalité, ça n'a jamais été de... Et puis j'irai tourner aux États-Unis, et puis j'irai avoir un César, je m'en bats les couilles de ça. C'est tout de suite là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on rigole? Comment on kiffe? Et comment j'exploite à fond cette seconde-là, cette minute-là. C'est ça mon objectif.
JP, c'est un plaisir de partager cet épisode de Spiritualista avec toi. T'es grave mon gars, sûr.
Merci à toi, t'es ouf ou quoi? C'était un plaisir de parler avec toi de spiritualité, de création. C'est pas souvent qu'on me pose des questions sur ça.
Ça
fait du bien de mettre des mots sur ça, en fait.
Mais c'est pour ça que j'ai voulu... faire cette nouvelle saison autour des artistes, et autour
super.
De leur création.
Franchement, la direction, tout ça, c'est vraiment super.
Est-ce que tu penses que, allez, question de la fin, que créer, c'est honorer le divin en nous?
Oui. En tout cas, j'ai cette sensation-là que créer, c'est mettre en action quelque chose qui nous dépasse. Après, c'est du divin, sûrement, mais en tout cas créer, c'est mettre en action quelque chose qui nous dé... Après il y a créer, hein. Il y a des gens, ils sont là pour faire de l'oseille, ils s'empattent les couilles machin. Moi je te parle créer au sens de l'artiste,
avec
au sens du voilà, avec le cœur et tout. C'est vrai que c'est mettre en action quelque chose qui nous dépasse, et en cela ouais, peut-être qu'il y a du divin.
Merci JP.
Merci ma gossure.
On te souhaite plein d'intuition, plein de créativité, plein de projets.
Vas-y, je te fais des bisous.
Bye bye.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.